le coût des expulsions. Bon, moi j'ai eu la chance de tomber très effrayant. Et je pense que la question qu'il faut se poser,
nous avons des gens fluents au gouvernement peut-être, mais ce ne sont pas des imbéciles. Donc, quand ils mènent une politique anti-immigrés comme celle qu'ils mènent, c'est qu'ils ont une raison. Et quand ils acceptent de dépenser des sommes faramineuses qu'on a à peine à imaginer, c'est qu'ils ont une raison. Donc ça, on en discutera après l'intervention de Damien. Alors, bon, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a maintenant plus de 30 ans que la maîtrise des flux migratoires est devenue l'objectif prioritaire des pouvoirs publics. En fait, c'est devenu la seule politique d'immigration. Enfin, ça remplace la politique d'immigration. Au nom de la maîtrise des flux migratoires, qui supposait au départ uniquement de stopper toute immigration nouvelle de travailleurs, on a fermé les frontières. On a instauré des contrôles de plus en plus draconiens à l'entrée du territoire. On s'est efforcé de colmater toutes les brèches par où les flux pouvaient encore pénétrer. D'où les entraves mises à l'entrée et au séjour en France des membres de famille, des étudiants, des demandeurs d'asile, des simples visiteurs, des conjoints de Français, soupçonnés d'être de faux étudiants, de faux demandeurs d'asile, de faux touristes, des conjoints de complaisance. L'obsession du verrouillage s'est ainsi accompagnée de l'obsession de la fraude et parallèlement de l'obsession de la clandestinité, avec les conséquences que l'on sait. Des atteintes de plus en plus graves portées aux droits fondamentaux des étrangers, mais aussi des Français. Le rétrécissement des garanties légales est désormais la suspicion généralisée et l'incitation à la délation qui sape les fondements de la démocratie. Alors, c'est un tableau très noir, mais heureusement, il y a quand même des gens qui se rebellent. Il y a le réseau Éducation sans frontières qui fait énormément parler de lui parce qu'il y a des actions extrêmement intéressantes. Elles réussissent pas tous, mais il y en a qui réussissent. Il y a le collectif contre une immigration jetable. Il y a énormément d'organisations, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives, qui ont compris qu'il fallait absolument se battre contre les lois anti-immigrés. Et puis, il y a de temps en temps des luttes auto-organisées par les sans-papiers eux-mêmes. Je citerai les travailleurs du sans-papier du Buffalo Grill qui se sont mis en grève et qui ont gagné. À un degré plus ou moins grand, parce que bon, il y a quand même eu beaucoup d'associations qui les ont soutenus, heureusement, les grévistes de la faim qui ont tenu 70 jours à Lille. Ils n'ont pas tous gagné. Il y en a qui ont été reconduits, il y en a qui ne sont toujours pas régularisés. Hein. Alors, cette réaction, elle est rassurante. Elle est rassurante parce qu'on se dit, bah oui, tout le monde n'est pas xénophobe, tout le monde ne se laisse pas complètement aliéner par ce système, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. Le discours qui consiste à dénoncer sans arrêt les atteintes portées au droit de vivre en famille, l'étranglement progressif du droit d'asile, la violation des procédures qui sont prévues par la loi, le caractère inhumain des pratiques administratives, l'amalgame entre clandestins et irréguliers, ce discours est important, mais il a ses limites. Il a ses limites. Si on veut interrompre l'escalade de la répression, et vous savez qu'à l'heure actuelle, elle est abominable, 25 000 expulsés à la fin de l'année, des drames humains affreux, des parents séparés des enfants, des couples séparés, et ça a été jusqu'à des suicides. Hein. En 2 mois, il y a eu 5 défenestrations. Je pense que si on veut lutter contre ça, il ne suffit pas de mettre les droits de l'homme en avant. Bien sûr qu'il faut les mettre, mais pas seulement. Il faut accepter de remettre en cause ce qui est à la racine même de cette escalade et cette répression, à savoir la fermeture des frontières. Il faut avoir le courage de s'attaquer à ce dogme intouchable, fermeture des frontières, et il faut démontrer que l'ouverture des frontières ne peut que nous enrichir. Alors, je vais laisser la parole à Damien, parce que cette fermeture des frontières, elle est idiote. Les frontières, elles ne seront jamais fermées. Les gens y passeront toujours. Hein, en fait, elles sont fermées, mais elles sont ouvertes de façon sélective. C'est ça l'immigration choisie. Certains auront le droit de rentrer, pas d'autres. C'est une politique qui coûte excessivement cher, et c'est ce que Damien va vous développer. C'est une politique qui est totalement antidémocratique. C'est une politique qui entrave l'intégration des populations étrangères en prétendant la favoriser. C'est une politique qui n'est pas acceptable. En plus, elle est ridicule. Les experts nous ont dit qu'en 2010, l'économie française ne pourra pas tourner sans les étrangers. Alors, d'accord, on les choisit. On les veut bien parce qu'ils vont travailler, mais on ne veut pas leur famille. Ça ne peut pas marcher comme ça. La famille, elle viendra. Hein? Voilà, donc cette politique est ridicule. Et Damien va vous développer tout le côté financier qui pose effectivement, qui nous permet de nous poser à ta question. Voilà, qui va Damien.
Bon, ben, d'abord merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là. Donc, pour préciser finalement au nom de quoi je parle, donc je suis effectivement universitaire, enseignant-chercheur dans l'université de Saint-Denis, mais en fait cette question-là, elle est venue pour moi dans un cadre militant, c'est-à-dire que je fais partie de ces très nombreuses personnes qui se sont retrouvées en quelque sorte happées dans le cadre du réseau Éducation sans frontières par la question des sans-papiers, plus particulièrement des familles sans-papiers ayant des enfants scolarisés en France. Et donc c'est finalement, bien sûr comme beaucoup, j'étais déjà indigné par le sort réservé aux sans-papiers, notamment depuis Saint-Bernard, mais là finalement à travers les écoles, ça a été aussi quelque chose de beaucoup plus concret, ça a été la rencontre tous les jours, avec des familles et la découverte donc des conditions dans lesquelles vivent ces familles sans-papiers en France aujourd'hui. Par ailleurs, donc moi j'habite le quartier de Belleville à Paris, et en tant que tel aussi, c'est un quartier dans lequel on vit tous les jours, des formes de pression et de violence policière extrêmement nombreuses. Et donc dans ce cadre, voilà, je me demandais vraiment comment est-ce qu'on a pu en arriver à cette situation faite aux étrangers et notamment aux sans-papiers. Alors la base de cette conférence, donc c'est cet article qu'a évoqué Maïté, donc qui porte sur le coût des expulsions. Alors tout à l'heure j'expliquerai en quoi ça peut être une question intéressante, parce qu'évidemment, mon point de vue, ce n'est pas celui du contribuable aligné, c'est tout autre chose. Juste pour préciser les choses, donc c'est une question en fait, qui circulait pas mal à l'intérieur du réseau, notamment quand a eu lieu ce tragique épisode de l'expulsion de la famille Rabat. C'est l'avocate de la famille Rabat qui posait cette question, dit mais au fait, il faudra un jour s'interroger pour savoir combien tout ça coûte, puisque ça va être une histoire assez invraisemblable, avec plusieurs déplacements en avion en France, et finalement l'affrètement d'un avion militaire spécial pour cette famille, donc les deux parents et les trois enfants, vers le Kosovo. Donc on s'était retrouvés plusieurs à manifester devant le siège d'Air France à ce moment-là, et j'ai discuté avec des syndicalistes CGT d'Air France, et je leur ai demandé, mais au fait, combien ça coûte un avion militaire? Et donc ils m'ont dit, oh, c'est à peu près 5000 euros de l'heure. Aussi, et voilà, bon. Se trouve également sur cette manifestation une journaliste qui travaille à Mouvement. J'en discute avec elle, me dit mais ça serait bien d'essayer de réfléchir à cette question du coût global. Donc c'est ce qui m'a amené à faire ce travail. Voilà, ça remonte il y a à peu près un an. Alors j'imaginais même pas que la situation pourrait autant se dégrader, puisqu'entre temps donc on a eu cette accélération des expulsions, on a eu bien sûr la victoire de Sarkozy, la création du ministère de l'identité nationale. Et la nouvelle loi, une énième loi sur l'immigration, donc qui est en cours de fabrication sous le nom de loi Hortefeux. Donc en fait, ce que je voudrais, ça serait insister sur trois choses. D'abord, montrer en quoi la politique actuelle s'inscrit finalement dans la continuité des politiques qui sont menées en France depuis 30 ans. Ensuite, je voudrais montrer ce qu'introduit de plus, finalement, c'est ces critères chiffrés en matière d'expulsion. À savoir, c'est à la fois la poursuite d'une logique de précarisation, sur laquelle je vais revenir, mais finalement une précarisation qui est continuée par d'autres moyens, et notamment par ce qu'on pourrait appeler une forme de terrorisation des étrangers, notamment des sans-papiers. Et mon troisième point, ce sera pour amorcer la discussion dont vient de parler Maïté, donc à savoir, est-ce que cette politique, finalement, elle est vraiment si absurde que ça? Voilà, à quoi elle répond? À quel genre de besoin elle répond? Et finalement, si on fait le bilan de tout ce qui est imposé aux étrangers, aux sans-papiers depuis 30 ans, la question, ça serait en gros, à qui profite le crime? Enfin, donc, ça serait une occasion de commencer la discussion. Alors, donc, premier point, donc cette politique, elle s'inscrit dans une continuité avec ce qui se passe en France en matière donc de politique migratoire depuis 30 ans. Et en fait, il y a deux lectures possibles de ces... Alors d'abord, première chose, la question de l'immigration, enfin les lois sur les étrangers, ce sont les lois les plus nombreuses qui ont été votées en France depuis 1945. On a un véritable phénomène d'inflation législative qui s'est augmenté ces dernières années, puisqu'on a eu trois lois le séjour des étrangers depuis 2003. Alors depuis, en fait, il y a deux lectures possibles, notamment de ce qui se passe depuis 1974. On a l'introduction de cette idée de maîtrise des flux migratoires. Première lecture possible, on va montrer les différences entre la droite et la gauche, montrer qu'en général, quand la droite est au gouvernement, ça correspond à une aggravation des conditions faites aux étrangers, et que quand la gauche est au pouvoir, ça va mieux. Mais en fait, il y a une deuxième lecture qui est possible, qui est de montrer que derrière ces alternances, en fait, il y a une vraie logique qui est à l'œuvre, une vraie continuité, et qui est bien une logique de précarisation. Alors, logique de précarisation, ça veut dire quoi ? Enfin, il y a deux aspects, finalement. L'aspect fabrication de sans-papiers, donc avec des restrictions de plus en plus grandes concernant les conditions de séjour des étrangers, l'accès de plus en plus difficile à des titres de séjour hein, et aux droits qui y sont afférents. Donc on a une multiplication du nombre de personnes en situation irrégulière sur les territoires français. Et d'autre part, deuxième aspect de cette précarisation, même pour ceux des étrangers qui sont en situation régulière, c'est des garanties de moins en moins importantes sur leur sort, hein, des horizons de présence qui sont toujours plus courts, avec notamment des titres de séjour qui sont sur des durées de plus en plus courtes. Également, l'autre logique, donc une logique de précarisation sous ces deux formes, et une logique de stigmatisation et de suspicion, donc à savoir la désignation de l'étranger comme un problème à traiter, ou des populations étrangères comme un problème à traiter, voire comme un danger à éliminer. Donc ce sont ces deux dimensions en fait qu'on va retrouver tout au long de ces différentes lois. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces lois qui ont pu être votées, notamment depuis 1974, mais je vais quand même faire quelques rappels historiques, donc pour savoir comment on en est arrivé là. Donc 1974, c'est la première rupture, puisque c'est à ce moment-là donc, que l'immigration dite de main-d'œuvre est officiellement arrêtée. Alors ce qui se passait jusque-là, depuis 1945, c'est que donc la situation était la suivante, on avait des personnes soit qui rentraient sur le territoire français avec un visa touristique, avec un passeport ou même de façon irrégulière, qui une fois sur place trouvent à s'embaucher, et du moment où elles ont un travail, elles obtiennent un titre de séjour, de façon quasiment automatique. Ou bien, comme on le sait, ce sont des entreprises françaises qui vont elles-mêmes chercher de la main-d'œuvre, notamment dans les colonies, puis après 60 dans les anciennes colonies. Donc voilà, il y a finalement une relative ouverture des frontières, et ce qui, au passage, me semble quelque chose d'assez important quand on parle aujourd'hui. Alors l'argument qu'on oppose toujours à la question de la régularisation, c'est l'appel d'air. Il ne faut pas régulariser parce que ça créerait un appel d'air. Mais là, ce qu'on voit, c'est que finalement, dans des situations où les frontières sont relativement ouvertes, où il y a un vrai besoin de travail, donc les gens qui viennent en France arrivent à trouver des emplois qui sont en plus des emplois réguliers, protégés, etc., donc ça ne provoque pas particulièrement d'appel d'air. On n'a pas une augmentation spectaculaire des flux de migrants à cette époque. Donc en tout cas, tout ça s'arrête en 1974, et c'est le moment donc, où est instauré une politique donc dite de maîtrise des flux migratoires. Alors, évidemment, dès qu'on parle de questions liées à l'immigration, les termes sont assez piégés. Et là, je crois qu'il y a un premier piège qui intervient à ce moment-là, c'est qu'on va, le discours officiel, c'est de dire, voilà, on passe d'une immigration de main-d'œuvre, donc des personnes qui viennent en France pour travailler, à une immigration fondée sur le regroupement familial. Donc on passerait d'un coup, donc avec des personnes qui viennent travailler à des travailleurs ou des anciens travailleurs qui font venir leur famille, puisqu'à partir de ce moment-là, effectivement, le regroupement familial est la première source d'immigration, en tout cas d'immigration non européenne. Alors, ce qui à la fois va susciter une forme de suspicion, disons que ça va venir à l'appui, faire cette séparation-là, ça vient à l'appui des discours xénophobes du type, voilà, donc maintenant les gens qui viennent, en fait, c'est finalement pour profiter des garanties offertes par le système de protection sociale français, mais aussi c'est fondamentalement une contre-vérité, parce qu'il est absurde de séparer ce qui relèverait de la main-d'œuvre et ce qui relèverait de la migration familiale. On voit bien aujourd'hui, on sait aujourd'hui, même les épouses qui viennent rejoindre leur mari ou les enfants, c'est aussi dans la perspective, bien sûr, de trouver un emploi ou du travail, en tout cas. En fait, je crois que ce qui se passe, c'est que derrière cette rupture de 1974, donc cette idée de fin de l'immigration de main-d'œuvre, en réalité, c'est bien toujours la question du travail qui va guider les politiques migratoires, mais finalement, on va pas le dire, ça va se passer en sous-main et de façon relativement hypocrite. Et on pourrait même, on fera l'hypothèse, on en discutera tout à l'heure, mais que la fabrication de sans-papiers par la loi, ça s'inscrit aussi dans une logique économique, mais dans un cadre qui est le cadre d'une économie qui a de plus en plus recours à du travail sous-traité, flexible, etc. Donc première rupture en 1974, deuxième rupture en 1980, c'est un moment important, c'est la loi qu'on appelle loi Bonnet, donc qui là aussi est une rupture pour un certain nombre de choses qui nous apportent encore aujourd'hui. C'est la première fois qu'apparaît la possibilité de renvoyer des étrangers en situation irrégulière et sur la seule base du fait qu'ils sont irréguliers. Il y avait quelques procédures d'expulsion auparavant, mais c'était lorsque les personnes, par exemple, provoquer des troubles à l'ordre public. Là, le fait d'être irrégulier suffit à justifier des renvois ou des reconduites à la frontière. Deuxième point qui est important également, c'est le fait que les décisions d'expulser un étranger vont être conférées, le pouvoir de décision en tout cas, est conféré au préfet. Donc ce qui est un premier pas finalement dans cette dimension bureaucratique, inhumaine, de la gestion des expulsions. Puis aussi un autre moment important, puisque c'est en 1980 qu'apparaît pour la première fois l'idée d'une rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que lorsqu'une procédure d'expulsion est décidée, il y a possibilité de retenir donc la personne visée dans un établissement pénitentiaire d'abord, et puis à partir de 1984, on aura la construction des premiers centres de rétention, donc les fameux CRA, qui vont être spécialisés donc dans la rétention des étrangers en attente d'expulsion. Alors, premier contre-mouvement, si on peut dire, en 1981, donc là je vais faire apparaître ces premiers cycles, finalement, qui sont à la fois des cycles d'aller-retour et en même temps des cycles de progression, puisque donc avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, ce n'est plus, alors il y a un certain nombre d'avancées, ce n'est plus le préfet qui décide des expulsions, mais c'est bien le juge qui décide des reconductions à la frontière et qui doit tenir compte finalement de la situation personnelle, familiale, etc., de l'intéressé. Et c'est aussi l'introduction de la carte de résident de 10 ans, donc qui donne le droit de travailler et qui, à ce moment-là, est donnée à toutes les personnes qui résident en France depuis plus de 3 ans, en tout cas au moment où est votée la loi. Donc un certain nombre de progrès, mais finalement, il y a des choses aussi qui sont maintenues, à savoir donc toujours la possibilité d'expulser de force, et également donc toutes ces procédures de rétention administrative. Donc en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est une procédure, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais de procédure en escalier, si on peut dire. C'est-à-dire, donc on a la droite arrive, on a un mouvement de dégradation. La gauche, arrivant au pouvoir, supprime les mesures les plus scandaleuses, qui apparaissent les plus scandaleuses, mais maintient l'essentiel du dispositif qui a été voté auparavant. Donc on a un mouvement de dégradation, finalement une sorte de pause, et à chaque alternance, une dégradation nouvelle et une pause. Mais au total, c'est bien un mouvement de dégradation des conditions et des droits qui se dessinent. Donc ce premier mouvement en 1981, deuxième mouvement, ça va être la succession des premières lois Pasqua en 1986 qui vont être suivies de la loi Jox de 1989. Là aussi, simplement sans rentrer dans tous les détails, donc ce à quoi correspondent les premières lois Pasqua, ça va être d'abord des restrictions de plus en plus grandes pour obtenir des cartes de résident, le retour aux préfectures du pouvoir d'expulsion. Et tandis que la loi Jox, en fait, va, là, une fois encore, garder tout ça, mais avec simplement des garanties de procédure en plus. Par exemple, le fait de pouvoir, lorsqu'une personne donc, reçoit un arrêté de reconduite à la frontière, a la possibilité de contester cette décision du préfet devant les tribunaux administratifs. Donc, situation qu'on connaît toujours aujourd'hui. Donc, là encore, on donne quelques garanties, on encadre avec un peu de droit, mais au final, la logique d'ensemble d'expulsion est maintenu. Troisième série de mesures importantes, donc ce sont les deuxièmes lois Pasqua de 1993, en fait il y en a plusieurs, mais dans la période 93-94. Là aussi, un élément de plus à la fois de précarisation et de stigmatisation, puisque c'est le moment où est abandonné le droit du sol. Puisque donc, à partir de ces lois Pasqua, les jeunes nés en France de parents étrangers ne bénéficient plus automatiquement de la nationalité française, mais doivent manifester leur volonté de devenir français. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, il y aura de plus en plus de conditions qui seront ajoutées pour que des jeunes nés en France puissent obtenir la nationalité. Alors, deuxième loi Pasqua qui auront d'autres effets. On va rendre de plus en plus facile les contrôles d'identité sur la voie publique, hein, de façon à vérifier la régularité du séjour des personnes. Ce sont aussi les premières restrictions sur le regroupement familial, et c'est le moment aussi où on va commencer à suspecter systématiquement les questions de filiation, les mariages entre Français et étrangers. Donc on a cette logique, voilà, de cette obsession de la fraude dont tu parlais, qui s'accélère à ce moment-là. C'est aussi le moment, c'est une date importante à retenir, donc 93, où les étrangers sans papier perdent le droit aux prestations sociales. C'est-à-dire que même s'ils ont travaillé et cotisé plusieurs années, il n'y a plus d'accès aux prestations versées par la sécurité sociale. Et c'est encore également un tournant dans la mesure où c'est le moment où on voit apparaître cette idée de pénaliser ceux qui aident les étrangers en situation irrégulière, donc avec cette nouvelle catégorie du droit, donc qui est l'aide à l'entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière, et là aussi avec des aggravations systématiques. Aujourd'hui, une logique d'extension aussi, puisque comme vous le savez, Brice Hortefeux a fait remarquer publiquement que organiser un parrainage, par exemple, pouvait être considéré comme un acte pénalement répréhensible, puisque c'était une forme d'aide au séjour irrégulier des étrangers. Et donc, pour mémoire, donc, l'aide au séjour irrégulier des étrangers, en tout cas ce qui est prévu par le code pénal, c'est 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc c'est toutes ces logiques-là qui apparaissent aussi à ce moment-là. Donc là aussi, pour passer vite, ensuite on aura la loi Debré de 1997, avec des effets toujours plus forts dans la répression. Donc on confisque systématiquement le passeport des étrangers en situation irrégulière qui sont arrêtés. On met un système de fichage et de stockage des empreintes digitales des étrangers qui sollicitent un titre de séjour. Donc du moment où quelqu'un fait une demande de titre de séjour, il est en quelque sorte suspect. Donc on prend ses empreintes digitales et on les stocke. Et finalement, il y a une latitude de plus en plus grande qui est donnée aux administrations, aux préfectures, donc pour accorder un titre ou pour le refuser. Donc là aussi, c'est cette logique de l'arbitraire qui va également s'étendre jusqu'à aujourd'hui. Arbitraire qu'on va retrouver au moment des régularisations de Chevènement en 1997-98, hein, puisque donc il y aura 150 000 demandes qui seront effectuées et à peu près 60 000 régularisations qui seront obtenues, et arbitraire encore plus grand avec la circulaire du 13 juin 2006 de Sarkozy. Donc je suppose que vous savez comment ça s'est passé. Donc on fixe des critères, mais on fixe d'entrée le nombre de personnes qui seront effectivement régularisées. Donc on s'est retrouvé dans cette situation finalement. En gros, les premiers demandeurs ont été servis, et à situation exactement égale, une partie des familles ont été régularisées et les autres ont vu leur régularisation refusée. Alors, cas intéressant, la loi Chevènement de 1998, on voit bien finalement comment des logiques se maintiennent malgré les alternances politiques. Alors c'est une loi par exemple qui va introduire les titres qu'on connaît aujourd'hui, ceux dont bénéficient les familles sans papier ou les sans-papiers qui arrivent à être régularisés, à savoir le titre vie privée et familiale. Alors à la fois c'est l'introduction d'un nouveau titre de séjour, et en même temps c'est un titre de séjour qui n'a qu'une durée de 1 an, donc renouvelable certes, mais on est bien dans cette logique de précarisation. Donc on passe de titres de 10 ans à des titres de 1 an. Donc c'est ça la précarisation aussi, donc c'est le fait que voilà, la possibilité de s'installer durablement sur le territoire donc est suspendue à ces renouvellements annuels des titres de séjour. Et au contraire, il y a même d'autres dispositions qui interviennent. Voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, tout ce qui a été fait avant par la droite est à peu près maintenu. Donc il y a vraiment une fidélité des lois Chevènement, à l'esprit en tout cas des lois intérieures. Et ce qui, je crois, est important surtout, c'est que ce sont des lois qui restent dans le même esprit, à savoir que l'immigration est suspecte, les immigrés sont suspects, l'immigration est un danger potentiel pour la nation, et donc, et d'ailleurs, les étrangers relèvent d'une politique particulière, d'une police particulière. À noter également peut-être le fait que toutes ces politiques sont également légitimées, si on peut dire, dans un cadre européen, à savoir que l'Europe a proposé, à son tour, d'harmoniser les politiques en matière d'immigration sur les bases qui sont celles qu'on vient de voir. Par exemple, tout le monde connaît la convention de Schengen qui est signée en 1985. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que Schengen, au départ, c'était quelque chose qui était, a priori assez loin, c'était de faire disparaître les frontières à l'intérieur des pays signataires, à l'intérieur de l'Europe. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déplacement, puisque la logique, c'est de moins en moins la disparition des frontières intérieures, mais c'est de plus en plus la construction d'un mur extérieur au pays, d'un mur commun signataire au pays signataire. Alors, donc l'objectif a bien changé. Donc, on construit au niveau européen une frontière extérieure qu'on espère de plus en plus étanche, et on va encourager l'harmonisation des délivrances de visa, par exemple, et l'harmonisation, la coopération des polices aux frontières, et également l'harmonisation du droit d'asile, en tout cas du traitement des dossiers d'asile. Et en fait, ça correspond bien sûr, dans le cas du droit d'asile, à une restriction extrêmement forte. Il y a la convention de Dublin qui est signée en 1990 et qui de fait va remplacer la convention de Genève en prévoyant notamment qu'une seule demande d'asile peut être effectuée pour un ressortissant étranger qui rentre dans un pays européen, et puis qui va introduire des catégories comme pays tiers sûrs ou demande manifestement infondée. En fait, c'est des catégories qui sont destinées à accélérer le traitement des dossiers des demandeurs d'asile. De la même façon, les politiques européennes en matière d'immigration, elles vont passer de ce qui relève d'abord des matières d'intérêt commun, donc qui prennent place dans le cadre de conventions assez informelles signées entre plusieurs pays, au droit communautaire proprement dit, donc qui ne suppose seulement une majorité qualifiée et pas l'unanimité. Donc cet objectif de maîtrise des flux migratoires, il est bien parfaitement affirmé à un niveau international, en tout cas au niveau des institutions européennes. Et cette logique de suspicion, elle est présente aussi, puisqu'il y a donc cette suspicion à l'égard des mariages mixtes, du regroupement familial, des expulsions, etc. En matière d'expulsion, il y a une agence européenne qui existe, qui s'appelle l'agence Frontex, qui a été créée en fait pour faire des économies d'échelle pour les expulsions, à savoir que ça sert tout simplement à organiser des charters vers un pays d'origine donné, et en incitant les pays européens donc à profiter de ces charters donc pour faire des économies. Également d'autres choses qui sont moins connues, le système qui s'appelle Eurodac et qui va permettre l'enregistrement des empreintes digitales des demandeurs de titres de séjour sur toute l'Europe, et donc la possibilité de comparer ces empreintes digitales à un niveau là encore européen. Là aussi, une remarque au passage, donc on n'est pas du tout dans une logique de déréglementation qui est prônée par ailleurs en matière dans l'économie, etc., mais aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, donc on est bien au contraire dans une logique plutôt d'inflation législative, de multiplication des règlements, des directives, des lois, etc. Alors les choses se sont accélérées en France depuis 2003, c'est-à-dire à peu près depuis l'arrivée d'abord de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, et donc on a là aussi des lois qui se multiplient. Là, je ne rentre toujours pas dans les détails, mais en gros c'est à la fois le renforcement de tout ce qui est du dispositif répressif, donc on allonge les durées de rétention en centre administratif, on aggrave les sanctions pour l'aide et au séjour des étrangers irréguliers, on fiche les demandeurs de visa, on suspecte de plus en plus donc les relations de filiation. Par exemple, il n'y a plus d'accès direct aujourd'hui à des cartes de résident pour les parents d'enfants nés en France. Avec la loi dite CESEDA, donc condition d'entrée de séjour des étrangers et des demandes d'asile, donc on va avoir cette là aussi cette arrivée de la notion assez triste d'immigration subie. Donc on va distinguer la bonne immigration, qui est l'immigration choisie, donc, et la mauvaise immigration, qui est l'immigration subie, et donc celle qui passe par des filières clandestines, etc. Donc on a toute une catégorie d'étrangers donc, qui sont désignés comme absolument indésirables. Et l'introduction de nouvelles cartes temporaires, hein, des titres de travail d'un an, de travailleurs, donc qui là aussi sont dans une logique de fabrication des sans-papiers, parce que qu'est-ce qu'il arrive aux personnes qui ont ces titres de séjour d'un an, qui ne sont pas renouvelés? On peut imaginer qu'une partie va bien sûr rester sur le territoire français. Donc font partie des indésirables, notamment les conjoints de Français, les candidats au regroupement familial notamment. Et donc on va maintenir de plus en plus, enfin dans l'irrégularité, de plus en plus d'étrangers qui ont pourtant de façon évidente vocation à rester durablement en France. Donc on pense à toutes les personnes donc, qui ont des enfants nés en France, scolarisés en France, etc. Et donc l'histoire se poursuit avec la loi Hortefeux qui est en cours de discussion au Parlement. Donc alors on a beaucoup parlé de l'amendement qui avait été introduit concernant donc la possibilité de test ADN pour les personnes demandeurs de titres de séjour. Donc effectivement une disposition extrêmement choquante, mais il ne faut pas oublier que c'est pas le seul élément de cette loi, et que par exemple il y a ces restrictions très fortes imposées au regroupement familial, c'est-à-dire que là aussi on ne s'en prend pas uniquement aux étrangers en situation irrégulière, mais on s'en prend aussi à ceux qui sont en situation régulière, puisque leurs familles n'ont plus la possibilité n'ont plus le droit de les rejoindre, et donc il y a une atteinte extrêmement importante donc au droit à vivre une vie familiale normale et sereine. Donc on a vraiment une tendance à créer, si on peut dire, deux humanités distinctes pratiquement, puisque donc on va avoir d'un côté des gens qui ont accès au système de soins et pas les autres. Donc il y a eu un certain nombre de rapports, notamment récemment là, de Médecins du Monde, qui montrent le problème de l'exclusion des soins des populations sans papier en Europe. Donc une partie de la population qui a droit à une vie familiale et l'autre qui n'y a pas droit. Donc des tests ADN éventuellement qui seront vérifiables pour les uns et pas pour les autres. C'est un des éléments choquants de cet amendement, c'est que cette possibilité de faire réaliser des tests ADN donc, a été refusée pour les Français, mais elle semble possible pour les étrangers. Alors, j'en arrive à mon point central, donc ce qu'introduit l'idée d'objectifs chiffrés en matière d'expulsion, donc qui va en fait poursuivre cette logique de précarisation, mais par d'autres moyens. Donc ce qui est vraiment très inquiétant dans ce qui se passe en France depuis 2003, c'est cette dimension, cette rationalisation, si on peut dire, des expulsions et cette logique du chiffre donc, qui est poussée jusqu'à l'extrême. Il faut dire que c'est une chose d'expulser, c'est pas Sarkozy qui invente les expulsions, donc comme j'ai dit, la possibilité elle arrive en 80. Sous le gouvernement Jospin, il y avait à peu près déjà 5 à 10 000 expulsions annuelles. Je crois qu'il y a quand même une différence entre le fait de soit démonter des filières, soit de tomber sur des, je reprends l'expression de la CIMA, de tomber par hasard sur des sans-papiers des expulsés, que d'organiser et de mettre en œuvre, de mettre à disposition tous les moyens de l'État pour aller systématiquement chercher les sans-papiers et les faire expulser. Donc on a vraiment l'impression que l'expulsion aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga des politiques d'immigration. Et puis il y a cette nouveauté quand même qui est propre à la France, en tout cas qui est nouvelle dans notre histoire, donc c'est la fixation d'objectifs chiffrés en matière d'expulsion. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vu apparaître dans une circulaire qui datait du 22 octobre 2003 pour être précis, donc moment où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, et qui donc ministère qui s'adresse aux préfets, et dans laquelle donc Nicolas Sarkozy leur fixe des chiffres à réaliser en matière d'expulsion. Donc à la fois des chiffres au niveau national, alors c'était d'abord, on a demandé 10 000 expulsions, puis 15 000, puis 20 000, jusqu'à 25 000 aujourd'hui, et ensuite chaque préfecture se voit fixer un nombre d'expulsions à réaliser avec des pressions. Donc on l'a vu très récemment avec le fait, puisque maintenant c'est Hortefeux qui est en charge de ce projet, donc c'était il y a 15 jours, 3 semaines, donc il y a 15 jours, hein, il a convoqué les préfets, en tout cas les 18 préfets qui n'étaient pas, qui étaient très loin de leurs objectifs, et donc avec des remontrances et avec un, voilà, un système de menaces sur ces préfets s'ils n'atteignaient pas, ou de pression en tout cas, s'ils n'atteignaient pas leurs objectifs en matière d'expulsion. Et ça, ce sont des pressions qui se diffusent ensuite, donc des préfets vers les tout le long de la hiérarchie administrative et préfectorale, qui arrive ensuite sur les commissaires de police et qui se transmet aux policiers. On a beaucoup de témoignages là-dessus. Donc ça, c'est en même temps que la première loi Sarkozy sur l'immigration. Donc avec ces chiffres que je viens de mentionner. Alors c'est là où la question du coût finalement, elle peut être du coût financier, elle peut être intéressante, non pas pour dire en gros à quoi servent nos impôts, mais parce que ça montre finalement à quel point, enfin, l'ampleur des moyens qui sont mis à disposition pour arriver à ces quotas d'expulsion. Et en même temps, on voit bien que sur cette question du prix, du coût, plus exactement, il y a une forme d'embarras, puisque c'est quelque chose qui est soigneusement caché par l'État, par le gouvernement depuis cette date. Par exemple, la Cour des comptes, qui a fait un rapport sur cette question il y a 2 ans, donc commence par regretter le fait qu'il n'y ait aucun chiffre disponible sur... Voilà, c'est, finalement, on a cette politique d'expulsion. Alors, la Cour des comptes ne la critique pas du tout, elle trouve ça plutôt bien. Elle dit, mais quand même, ça serait bien un jour de savoir combien ça coûte, et elle constate qu'il n'y a absolument aucun moyen de les vérifier. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a le signe d'un embarras sur cette question, donc il y a quelque chose, en tout cas là, qui est caché, et pour de bonnes raisons, parce que quand on fait effectivement quand on met tout ça bout à bout, on arrive à des chiffres absolument astronomiques, et puis surtout derrière la question des coûts, ben, c'est bien les choix politiques qui sont mis en avant. Quand on arrive à des résultats supérieurs qui sont en termes de milliards d'euros, évidemment, ça permet aussi de faire des comparaisons et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi de cet argent. Donc on a la difficulté de faire ces calculs, c'est qu'on a une volonté des ministères concernés de masquer, en tout cas, le coût de cette politique, et qui risquerait justement de faire apparaître son caractère totalement démesuré. Alors, il y a bien une face, finalement, comment on peut repérer ces coûts-là, essayer d'estimer en tout cas un total. Il y a d'abord tout ce qui va relever de la face visible finalement des expulsions. Donc la face visible des expulsions, c'est quoi? Ben, c'est par exemple tous les crédits qui sont attribués à la police de l'air et des frontières, donc qui est censé assurer cette étanchéité des frontières françaises ou européennes. Et là, on a plutôt des déclarations en général assez appuyées des gouvernements en disant, voilà, on a donné beaucoup d'argent à la police de l'air et des frontières, de façon à arrêter les formes d'immigration donc irrégulières. Donc effectivement, on a un budget qui a été multiplié, je crois, à peu près par 4 depuis 2003 pour cette police de l'air et des frontières. La face également visible sur laquelle on peut arriver à chiffrer les choses de façon assez précise, ce sont les fameux centres de rétention administrative. Alors, centre dont, au passage, vous savez que le rapport Mermaz les avait qualifiés d'horreur de la République, et même la Cour des comptes, là aussi, remarque au passage qu'en général, donc, les étrangers, ils sont admis, retenus dans des conditions les conditions sanitaires et d'hygiène réservées aux étrangers étaient très dégradées, constituaient parfois une véritable atteinte à la dignité humaine. Donc, les mots sont, je crois, assez clairs. Et assez fort. Donc ces CRA qui sont créés, ces centres de rétention qui ont été créés à partir de 1984 et qui donc ont pour but de retenir les étrangers en situation irrégulière, c'est donc une pièce assez essentielle du dispositif d'expulsion. Alors d'abord, les gouvernements ont été amenés à multiplier ces centres de rétention, puisqu'en toute logique, bah, si on veut multiplier les expulsions, il faut bien multiplier ce genre de locaux. Donc là aussi, pour donner juste une idée, donc on a aujourd'hui une vingtaine de ces centres de rétention. Il y a plusieurs qui sont en construction. Il y en avait 3 qui étaient prévus pour cette année. Je crois que celui de Nîmes a été terminé récemment. Également exemple d'un certain cynisme du gouvernement. Donc aujourd'hui, quand je m'étais amusé à regarder les appels d'offres qui étaient faits pour la construction de ces centres, donc il y a maintenant systématiquement une ligne, le centre de rétention doit prévoir un matériel de puériculture adapté et la possibilité d'accueillir des enfants. Donc ça fait partie des projets. Donc aujourd'hui, on peut accueillir à peu près, il y a à peu près 1500 places dans ces centres de rétention. Et là aussi, évidemment, c'est des sommes qui ne sont pas petites, puisque rien qu'en investissement, donc en construction de nouveaux centres, dans le budget 2007, c'était à peu près c'était donc 50 millions d'euros, et un total donc de 270 millions d'euros consacrés donc aux centres de rétention. Là-dessus, donc là, c'est des chiffres qu'on trouve partout. Et la Cour des comptes, d'ailleurs, remarque, en fait, c'est un coût qui est très sous-estimé, puisque, par exemple, il y a 900 policiers qui sont assignés à ces centres, enfin, qui ont pour mission de surveiller ces centres, qui ne sont pas pris en compte dans ce genre de coûts. Donc, une durée moyenne de rétention, c'est à peu près 5 à 10 jours. Donc, et un séjour moyen, ça coûte à peu près 1 000 euros par étranger. Donc, par exemple, dans le cas de la famille Rabat, ils ont été maintenus 21 jours en rétention, donc fois 5 personnes, 2 adultes, 3 enfants. Donc ça fait déjà une partie du coût de cette expulsion-là qui était assez emblématique. Alors, on sait par ailleurs que parmi les personnes qui sont, ça c'est la dimension un peu absurde et politique, parmi toutes ces personnes qui sont passées en centre de rétention, alors heureusement on pourrait dire, une très grosse majorité n'est pas expulsée. Mais on verra que ça fait peut-être partie d'une logique aussi. Donc en gros, sur 3 personnes qui sont passées en rétention, il y en a une qui est effectivement expulsée. Alors j'avais trouvé le cas, c'est une avocate toulousaine qui avait fait un texte. Donc elle cite le cas de 4 de ses clients qui ont chacun séjourné 32 jours en centre de rétention. Donc c'est la durée maximale et qui écrit donc cette chose. Et donc cette rétention administrative inutile, puisque ces 4 clients au bout des 32 jours sont sortis du centre, n'ont pas été expulsés, a donc coûté 32 jours fois, donc c'était à l'époque le coût moyen était de 90 euros, fois 4 personnes, donc elle arrive à un total d'à peu près 12 000 euros, donc ce que ça a coûté aux contribuables français. Et donc, si on se rappelle que cette situation, ça concerne les 2/3 des détenus, donc à peu près 20 000 en 2006, donc on a là 10 millions d'euros donc pour maintenir des gens en rétention, donc en pure perte. Alors, heureusement pour ces personnes, mais là aussi, on peut s'interroger sur la cohérence de l'ensemble. Est-ce qu'il s'agit d'un échec? J'essaierai d'y répondre du point de vue gouvernemental, tout à l'heure. Donc ça, c'est la face visible de la politique d'expulsion, donc tout ce qui relève de la police de l'air et des frontières, ces centres de rétention, pièce essentielle du dispositif, mais il y a aussi finalement tout ce qui relève de la face cachée des expulsions. Alors, notamment, fait partie de cette face cachée, donc tout ce qui va en fait être pris du côté de la police ordinaire et qui va être dépassé vers cette, de façon à pouvoir réaliser ces fameux donc, quotas d'expulsion. En fait, il y a tout un ensemble de moyens qu'on ne peut pas voir, hein, qui font partie pourtant de cette politique, d'ensemble. Tout simplement pourquoi? Parce que avant d'être placé en rétention, les étrangers doivent bien être interpellés. Et donc pour ça, alors, il y a par exemple la 12e section des renseignements généraux qui est spécialisée dans le démantèlement des filières clandestines. Et bien évidemment, elle ne peut pas elle seule fournir ces 25 000 expulsés. Donc on va faire appel à qui? Aux policiers ordinaires, au commissariat de quartier, pour aller trouver des sans-papiers sur la voie publique. Donc là aussi, il y a eu des circulaires, donc toujours une circulaire de Sarkozy à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, donc il dit au préfet, n'hésitez pas à recourir à l'article 78.2 du code de procédure pénale. Donc c'est l'article qui dit les conditions dans lesquelles on peut faire des vérifications d'identité sur la voie publique. Donc il faut notamment une réquisition du procureur. Donc il invite les préfets à faire ces demandes de réquisition au procureur. Et donc sur la base de cet article 78.2, on peut vérifier l'identité de n'importe quelle personne sur un lieu public, juste à la condition qu'il y ait un périmètre délimité et une période de temps qui soit délimitée également par le procureur. Donc concrètement, ça donne quoi? Et bien ça donne ce qu'on appelle, je crois, à juste titre, des RAF. Donc c'est-à-dire, des policiers se... Moi j'en ai vraiment assisté à plusieurs, c'est assez impressionnant. Les policiers se déploient sur un quartier. Donc après, ça va être les endroits où on sait qu'on va trouver des sans-papiers en grand nombre. Donc ça va être autour des métros, Stalingrad, Colonel Fabien, Belleville, etc. Donc les policiers se déploient, vont contrôler, ce sont bien évidemment des contrôles au faciès. Alors, en fonction des charters prêts à partir, en fonction des places disponibles en centre de rétention, ça va être des populations qui vont être ciblées chaque fois précises. Donc, ça va être par exemple si ça peut être par exemple des moments où on va être visé essentiellement des femmes, parce qu'il y a, il y a une distribution des places en centre de rétention. Donc, si ce sont des places pour les femmes qui sont libres, on va viser des femmes. Si ce sont, ça dépend aussi des possibilités d'accueil des pays d'origine. Par exemple, l'Algérie, à certains moments donnés, refusait systématiquement le retour de ces sans-papiers. À d'autres moments, suite à des négociations, elle les acceptait. Donc, les Algériens vont être visés à certains moments, et plus à d'autres. Donc là, ce qui se passe, c'est les contingents qui sont nombreux actuellement, à Paris en tout cas, ce sont les Chinois. Donc les RAF vont viser essentiellement les Chinois. Donc les Chinois, on sait où ils sont. Ils sont à Belleville, ils sont dans le 13e arrondissement, donc les opérations de police vont avoir lieu dans ces quartiers-là. Donc toutes les personnes d'apparence asiatique sont contrôlées, et donc ça fournit comme ça des contingents importants, et ça permet de remplir les chiffres d'expulsion. Donc en termes de rythme, là actuellement, donc dans ces quartiers parisiens, depuis l'été, alors ça dépend un petit peu des périodes, mais en ce moment c'est une, deux, en tout cas depuis que Brice Hortefeux a rappelé les préfets, notamment le préfet de police de Paris, et lui a dit qu'il était loin des objectifs, on a une, deux, voire parfois trois de ces opérations tous les jours. Également, alors ce qui était au début d'ailleurs, bien évidemment, sur la réquisition, il n'y a pas marqué contrôler les personnes sans papier sur la base de leur faciès. Donc théoriquement, les policiers sont là pour vérifier, par exemple, les trafics de drogue, etc. Personne n'est dupe. Mais ce qui se passait au début, c'est que les policiers arrivaient, par exemple, sur les lieux avec un traducteur chinois d'emblée pour ne pas perdre de temps. Donc dans ce cas-là, les procédures pouvaient être cassées, puisque donc, ça permettait de montrer que les policiers venaient bien uniquement pour attraper des sans-papiers. Alors j'étais allé, d'abord j'avais remarqué qu'il y avait un certain nombre de policiers qui semblaient assez réticents à ce type d'opération. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, justement avec ces rythmes de plus en plus soutenus d'arrestation, en fait ça leur prend tout leur travail. Donc ça, on a de plus en plus de témoignages là-dessus. Et donc à un certain moment donné, c'est la moitié du temps de travail des policiers de l'Est ou du Nord de Paris qui sont consacrés aux arrestations de sans-papiers. Et aujourd'hui c'est parfois jusqu'à 4-5 jours par semaine pour ça. Donc ce qui suscite un certain agacement, y compris dans les rangs de la police. Donc j'avais interviewé un OPJ de Paris, donc il m'expliquait comment ça se passait, notamment sur le fait qu'eux-mêmes, donc c'est la répercussion de cette logique du chiffre, ils ont des quotas à faire tous les jours. Donc par exemple, une bonne opération, c'est 10 papiers interpellés avec au moins, il faut qu'il y ait à peu près, au moins, que ça donne lieu à 5 gardes à vue. Donc en gros, l'objectif est rempli, voilà, on a interpellé 10 papiers, on fait au moins 5 gardes à vue, et on espère qu'au terme des gardes à vue, il y en aura au moins 2 ou 3 qui seront placés en rétention. Donc ça, c'est une opération réussie. Alors, en sachant là aussi, en termes de moyens, ça veut dire quoi ? D'abord, c'est les policiers qui sont placés sur la voie publique donc pour procéder aux arrestations. Et ensuite, pour chaque garde à vue, il faut à peu près 2 ou 3 fonctionnaires de police. Donc souvent, ça se passe aussi la nuit. Alors ça, c'est une conséquence des mobilisations. Le fait qu'il y ait de plus en plus de réactions à ces opérations de la part de militants ou de citoyens des quartiers concernés. Les policiers ont dû changer de stratégie, donc ce sont parfois des opérations aujourd'hui qui sont moins visibles, et ce sont aussi des opérations qui ont lieu la nuit par exemple, puisque suite aux affaires de la rue Rampal, on ne peut plus arrêter notamment aux heures de sortie des écoles. Donc ça aussi, ça fait encore des déploiements supplémentaires. Pour chaque interpellé, il faut faire venir un traducteur. Souvent, il y a une visite médicale qui est prévue. Et donc là aussi, cet officier en tout cas me disait que c'était pour eux, c'était une détérioration de leur travail ordinaire. C'est-à-dire simplement, elle me disait, au lieu d'arrêter des délinquants, d'arrêter sans papier, on sait très bien que ça ne sert à rien, on sait très bien que c'est des gens qui sont absolument inoffensifs, mais c'est la pression qui est comme ça, et bien évidemment, eux-mêmes ont des sanctions s'ils ne font pas leur chiffre de sans papier. Donc d'ailleurs, là aussi, petite contradiction au passage, donc, puisque un des objectifs affirmés, c'était de Nicolas Sarkozy depuis plusieurs années, c'est la baisse de la délinquance, donc on s'aperçoit qu'en réalité, l'essentiel des moyens policiers sont mis à disposition de la chasse aux sans-papiers. D'autres problèmes, alors comment ça se passe quand c'est des petites villes de province, par exemple, où il n'y a pas de consulat des pays concernés, où il n'y a pas de consulat de Chine, par exemple. Dans ce cas-là, donc, quand un sans-papier va être arrêté, il faut quand même obtenir, il faut que cette personne soit reconnue par son consulat, donc on va l'amener à Paris, par exemple. Donc là aussi, c'est toute une escorte qui l'emmène. Faire reconnaître ou non sa nationalité et obtenir donc le laissez-passer qui va être nécessaire à son expulsion. Donc tout un système d'aller-retour. Quand l'étranger est placé en situation, est placé en centre de rétention, il va y avoir toutes les procédures judiciaires. Passage devant le juge des libertés et de la détention, qui peut se faire à plusieurs reprises. Passage devant le tribunal administratif, donc chaque fois. Le tout également sous escorte policière. Donc là aussi, toujours pour reprendre l'exemple de le triste exemple de la famille Rabat. Donc cette famille est arrêtée à son domicile à Grès, c'était en Haute-Saône. Donc passage par Lyon, ils ont été amenés en centre de rétention à Lyon. Il y a eu deux tentatives d'expulsion ratée. On les a amenés d'abord à Paris. Il y a eu une mobilisation à Paris, on les a ramenés sur Lyon. Il y a une deuxième tentative depuis Lyon, si je ne me trompe pas, également échouée. Et donc, pour les couper de leur réseau militant, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a amenés à Toulouse, hein, depuis Lyon. Et là, donc, il y a eu cet avion militaire spécial qui a été affrété du Bourget, donc Paris-Le Bourget. On les a amenés à Pristina, puis ensuite, on les a ramenés dans le village où ils venaient et qu'ils avaient dû quitter, puisqu'ils y avaient été persécutés de façon particulièrement violente. Donc, si on fait le total, on arrive à quelque chose comme à peu près 100 000 euros consacrés donc, pour mettre à l'étranger donc une famille, un papa, une maman, trois enfants, qui avaient à l'époque 7 ans, 5 ans, je crois, et 3 ans. Les trois enfants nés en France, ne connaissant que la France, ne parlant que le français, donc pour qu'ils se retrouvent dans un village où ils ont dû rester enfermés dans une cave pendant 6 mois parce qu'il n'était pas question pour eux de sortir, puisqu'il y avait des réelles menaces qui pesaient sur eux. Alors dans mon article, je cite également le cas, si vous en souvenez, de la famille Macombo, les parents de Rachel et Jonathan qui avaient fait pas mal de bruit à l'époque. Donc là aussi, famille qui est venue de la RDC, donc du Congo Kinshasa, pour des bonnes raisons aussi, qui avaient subi de très violentes persécutions. Et donc pareil, la police, sans doute, alors ça se passe souvent dans des départements assez ruraux, donc pour faire le chiffre, hein, c'est pas facile, donc c'est bien de trouver des familles, parce que ça fait 5 personnes d'un coup, ou 6 personnes d'un coup. Donc dans le cas de la famille Macombo, les policiers sont allés chercher les enfants au centre de loisirs, hein, la maman à son domicile, et les deux aînés ont eu la bonne idée, on su que les policiers étaient en train de venir chercher, donc se sont enfuis à Paris pour donc séparer la famille. Et comme en général, on ne renvoie pas les parents sur leurs enfants. Donc ça permet effectivement de débuter en tout cas une expulsion à court terme. Et donc là aussi, pour donner une idée des moyens policiers qui sont mis à disposition, donc tous ces policiers pour aller arrêter les enfants en centre de loisirs, tous leurs réseaux ont été contrôlés. Ils étaient en fait pris en charge par l'église protestante de Sens, donc le temple a été fouillé, et tous les gens qui étaient en contact avec eux ont vu leur répertoire téléphonique fouillé. Les journalistes qui suivaient l'affaire ont été mis sous écoute téléphonique. Voilà, tout ça là encore, là c'était donc une mère et 4 enfants. Ça laisse assez songeur. Alors donc pour au total, ça fait quoi tout ça? Donc moi, l'estimation à laquelle j'étais arrivé, c'est on peut estimer qu'en gros, depuis 2004, c'est chaque année, c'est l'équivalent de 15 000 emplois à temps plein qui sont consacrés à cette politique d'expulsion de sans-papiers. C'est-à-dire qu'il faut pour deux sans-papiers expulsés, il faut un fonctionnaire à temps plein. En équivalent budgétaire, je ne rentre pas dans le détail des calculs. Voilà, donc alors en termes de coûts, ça fait quoi également? Donc moi, j'arrive à un total qui sera à peu près, donc ce qu'auraient coûté les expulsions depuis 2003, s'il faut estimer que c'est à peu près 3 milliards d'euros. Alors sachant qu'il y a eu des études qui ont été faites en Angleterre récemment, il y a un groupe d'experts indépendants qui s'est réuni pour faire ce calcul et qui arrive à des chiffres à peu près équivalents. Donc je pense que mes calculs doivent être à peu près exacts. Et donc 3 milliards d'euros, pour donner une idée, c'est par exemple, c'est le déficit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc des retraites, hein, puisqu'il en est question, prévu pour 2007. Donc là encore, évidemment, ce n'est pas tellement le problème du prix, mais ça donne une idée donc de tous les moyens qui sont mis en œuvre pour simplement donc arrêter des personnes qui sont en général des personnes qui, voilà, ça peut être des familles, ça peut être des célibataires. Alors quelles raisons, d'abord, quelles justifications officielles sont données? Dans un premier temps, Nicolas Sarkozy dit qu'il faut expulser pour des raisons de crédibilité. Alors, crédibilité auprès de qui? C'est pas évident. Est-ce que c'est auprès des autres pays européens? Est-ce que c'est auprès des pays d'origine? Auprès des candidats à l'immigration eux-mêmes? Mais je crois que la vraie raison a été donnée un petit peu plus tard. Alors ça, c'est une déclaration qu'il fait devant les préfets à nouveau. C'est une déclaration qui est faite le 28 septembre 2006 et que j'ai trouvée sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas une source officieuse. Et donc il justifie pour expliquer aux préfets pourquoi il doit faire ça. Il dit, eh bien, c'est bien parce que ce sont des chiffres qui parlent à tous les Français. Donc il dit, 28 000 reconduites à la frontière, alors ça c'était à l'époque le chiffre un peu bougé. 28 000 reconduites à la frontière, une baisse de la criminalité de 2%, moins 5% tués sur la route. Ça parle aux Français. Voilà, donc on voit bien qu'au final, ce qu'il y a derrière, c'est une pure opération de communication, qu'il n'y a même pas de cohérence, même pas de rationalité, même dans une logique de maîtrise des flux migratoires, comme on dit. Parce qu'au fond, ça serait quoi? Enfin, la logique, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être de dire, même si, imaginons que les 25 expulsions soient effectivement réalisées, ça vous ferait le cas, qu'aucune de ces personnes ne revienne. Évidemment, c'est faux. Lorsqu'un père de famille est expulsé en laissant ses enfants en France, c'est bien évident qu'il va revenir. Donc, en imaginant, donc d'un côté, on est bien 25 000 expulsions par an, que les frontières, par ailleurs, soient totalement étanches. C'est-à-dire que plus personne qui n'ait pas d'entrée pendant ce temps-là, ce qui est évidemment totalement illusoire, sachant qu'il y a entre 200 000 et 400 000 sans-papiers en France, ce sont les estimations, donc il faudrait 10 à 15 ans pour, si on voulait, vider le territoire français de tous ces sans-papiers. Donc bien évidemment, ce n'est pas là la question. Donc la vraie raison, elle est à la fois là, dans cette opération de communication, donc de faire ce chiffre qui est censé parler aux Français. Mais je crois qu'on peut aller un peu plus loin dans le raisonnement, et en montrant que, en fait, c'est aussi des dispositifs qui sont finalement destinés à précariser toujours plus. Donc, ajouter un surcroît de précarité, finalement, voilà, la question que je voudrais poser maintenant, c'est à qui, finalement, voilà, c'est quoi la véritable logique? C'est bien, il y a cette logique de précarisation, cette logique de stigmatisation, mais finalement, en quelque sorte, voilà, à qui ça profite, à quoi ça correspond. Et ce que je crois que c'est le fait de précariser, ce n'est pas un dommage collatéral de ces politiques, hein, ce n'est pas une conséquence annexe, mais c'est bien quelque chose qui est finalement un objectif. Ces politiques, elles ont pour but de maintenir ces populations précaires. Alors je disais tout à l'heure à propos de la question de la main-d'œuvre que la question du travail, elle restait centrale. Et je crois que c'est toujours le cas. Et là aussi, s'il y a une contradiction, c'est finalement, donc, on a, pour des raisons électoralistes, ces politiques d'expulsion, et par ailleurs, Nicolas Sarkozy, qui n'est pas un imbécile, c'est qu'il y a quand même un besoin que ces populations sans papier, elles jouent un rôle économique non négligeable dans une économie comme l'économie française. Donc vous savez que c'est par ailleurs le frère de Guillaume Sarkozy. Guillaume Sarkozy, c'est pas n'importe qui, donc il est dans les instances dirigeantes du MEDEF, et il ne représente pas n'importe quel secteur, puisqu'il représente le secteur textile. Et le secteur textile, c'est un de ceux qui a massivement recours à des populations, à une main-d'œuvre sans papier. Donc, bien évidemment, que les responsables gouvernementaux savent ces choses-là. Alors, en fait, c'est quoi? Quand on regarde de plus près, il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui ont largement recours à cette main-d'œuvre sans papier. Donc, c'est le textile, effectivement, c'est l'hôtellerie-restauration. C'est le bâtiment, là où il y a un certain nombre de documents qui sont distribués, avec des exemples, j'ai regardé tout à l'heure, très intéressants sur le cas du bâtiment, et aussi l'agriculture et certains commerces de détail. Alors avec plus ou moins d'ampleur, dans la restauration, on estime que c'est à peu près, la main-d'œuvre sans papier, c'est à peu près 10% de l'ensemble. Dans le cas du textile, on arrive à des choses impressionnantes. Par exemple, je crois qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne la confection féminine, fabriquée en France, ça serait quasiment la totalité qui serait fabriquée dans des ateliers clandestins. C'est pas, voilà, pour celle qui est vraiment fabriquée en France sur place, la quasi-totalité. Donc le point commun de ces secteurs, c'est quoi? Ce sont des secteurs qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre, c'est-à-dire dont les coûts de production sont constitués essentiellement par les salaires ou par le coût du travail. Et ce sont également des secteurs qui emploient du travail peu qualifié. Donc dans ces secteurs-là, en tout cas, le recours à une main-d'œuvre illégale, elle est carrément stratégique, elle est carrément importante. Et je crois que pour comprendre, j'emprunterai une expression à Emmanuel Thierry. Alors ça, c'est un texte que vous retrouverez, j'ai vu aussi qu'il était vendu là-bas, c'est dans ce petit livre qui s'appelle « Sans papier, l'archaïsme final », qui est vraiment, un des meilleurs bouquins qui a été écrit sur la question. Et Emmanuel Thierry introduit cette idée extrêmement intéressante et extrêmement judicieuse, je crois, pour comprendre ces logiques, qui est celle de délocalisation sur place. Donc l'idée, c'est quoi? Quand une entreprise délocalise, elle cherche quoi? Elle cherche bien sûr à baisser ses coûts de production en allant chercher de la main-d'œuvre bon marché à l'étranger, de la main-d'œuvre assez docile, de la main-d'œuvre flexible. Le maintien de populations sans papier sur un territoire, ça permet quoi? De faire de la délocalisation, d'avoir les mêmes avantages, mais sur place, donc avec d'autres avantages. On n'a pas les frais de transport qui peuvent être ceux depuis la Chine vers la France. on n'a pas besoin d'expatrier des cadres à des hauts prix pour encadrer la production. Donc on a une main-d'œuvre délocalisée en quelque sorte, mais sur le territoire français. Donc avec tous les avantages, ça peut être donc des durées de travail plus longues, bien évidemment. Ça aussi, ben, quand on discute avec les sans-papiers, on voit bien que notamment dans l'Est parisien, ce sont beaucoup de populations chinoises, donc des personnes qui travaillent 7 jours par semaine, 12 à 14 heures par jour. Absence totale de protection sociale, flexibilité à l'extrême, plus absence de fiscalité, etc. Donc quand je dis flexibilité totale, c'est notamment la possibilité d'interrompre la relation de travail à tout moment. Bien évidemment, les moyens de plainte des sans-papiers sont assez limités. La possibilité d'embaucher la main-d'œuvre à la journée. Et ça, évidemment, ça concerne à la fois donc, ces petits ateliers textiles, par exemple, mais ça concerne bien évidemment aussi des très grosses entreprises, comme dans le secteur du BTP, Bouygues par exemple, qui a recours, mais alors en toute bonne conscience, puisqu'elle n'a même pas besoin d'y avoir recours directement, parce qu'avec le système de la sous-traitance et avec le système des entreprises en réseau, bien évidemment, c'est pas sur eux directement que pèse cette question des sans-papiers. Et il y a même certains chercheurs qui ont fait l'hypothèse que finalement, les sans-papiers, d'une part, ça avait permis d'expérimenter en quelque sorte toute la dimension de flexibilité du travail en France au début des années 80. Et c'est aussi, ils jouent en quelque sorte une fonction d'amortissement des chocs sociaux. Par exemple, dans l'industrie dans les années 80, quand on a licencié massivement, ben on commence par les étrangers les plus précaires, ce qui permet d'amortir le choc pour les travailleurs français. Voilà, plus la contribution aussi de ces populations tout simplement à l'économie nationale, puisque ce sont des populations dont l'essentiel des salaires, alors il y a une partie qui est reversée dans les familles restées au pays d'origine, mais surtout l'essentiel qui est dépensé en dépenses de conservation sur place. Donc ce sont aussi des populations qui contribuent à la croissance, à la consommation, etc. Donc on pourrait dire en quelque sorte c'est une contribution, c'est des nouveaux bataillons qui contribuent à la formation de l'armée de réserve, pour reprendre une expression ancienne, mais qui me semble encore largement pertinente. Donc on a tous les avantages pour les uns de la délocalisation, mais sans en avoir les inconvénients. Et par contre, pour les autres, bien évidemment, tous les défauts qu'on peut imaginer. Anecdote, en tout cas un épisode qu'on a vécu récemment. Donc il y a il y a beaucoup de démantèlement d'ateliers en ce moment à Paris, mais est-ce qu'il y a une réelle volonté de lutter contre le travail, contre ces ateliers, contre les filières clandestines? Pour autant, c'est très très loin d'être évident. Donc d'où ma petite histoire. Donc un de ces ateliers qui est assez connu en fait dans le quartier, c'est rue du Moulin Joly à Paris. Donc la police arrive le matin, arrête l'ensemble des travailleurs qui sont des Chinois qui sont sur place, les place en garde à vue. Donc nous là-dessus, donc on arrive, on essaie de faire sortir le maximum de personnes. Alors d'une part, on s'aperçoit que, donc en discutant avec les familles venues essayer aussi, venues aux nouvelles, qu'apparemment une partie de ces... En fait, l'arrestation s'est faite sur dénonciation du propriétaire de l'atelier en question. Donc on se demande pourquoi, et on s'aperçoit là pourquoi. Comme ça, il ne leur a pas payé donc ça c'était mi-septembre. Le mois d'août ne leur a pas été payé. Le mois de septembre ne leur a pas été payé non plus. Donc pour lui, c'est tout bénef sur deux mois de travail gratuit. Donc pour lui, c'est tout bénef. Pour la police, ravi, ils ont leur 10 arrestations, leur garde à vue, leur placement en centre de rétention. Et là où l'histoire se corse, c'est qu'un certain nombre de militants sont retournés le soir sur place dans l'atelier. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que l'atelier tournait à plein. Donc tous les postes avaient été remplacés et le travail continuait exactement comme avant. Donc il y a pour le moins, alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à imaginer qu'il y ait des formes d'accord ou deux entre la police dans ce cas-là et les chefs d'atelier, en tout cas les propriétaires d'ateliers, mais finalement tout le monde est sur son compte. Donc une main-d'œuvre là dont le coût est réduit à zéro, des policiers qui font leurs chiffres, donc des effets éventuellement électoraux quand on pourra dire enfin que oui, ça y est, on a expulsé 25 000 personnes, et un système économique qui continue à tourner. Et puis bien évidemment, ce fait que précarisation des étrangers, précarisation du travail pour l'ensemble des, pour l'ensemble des personnes, ça s'accroît réciproquement, puisque quand dans la restauration, vous pouvez faire appel à des cuisiniers sans papier pakistanais ou tamouls, par exemple, ça fait une pression, bien évidemment, à la baisse sur l'ensemble des salaires. Et puis pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de différence entre migration familiale et migration de travail, avec le développement des services, ce qu'on voit aussi, ce que tout le monde sait, c'est que aujourd'hui, une grande partie des migrants qui viennent sont bien des migrantes, mais qui viennent donc chercher du travail dans des métiers qui sont plus particulièrement féminins, donc tout ce qui va être aide à la personne, le métier de nounou par exemple, le personnel de nettoyage, le ménage chez les particuliers, les secteurs du textile, et finalement là aussi tous les secteurs qui vont demander une main-d'œuvre peu qualifiée et corvéable à merci. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc, je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à expulser tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment un échec? Donc il y a une partie des rétentions qui ne donne pas lieu à expulsion, peut-être pas autant que ça, puisque finalement ce que ça crée, c'est un peu plus de précarisation, un peu plus de peur, mais que tout le monde n'y est pas perdant. Donc dans ce cas-là, voilà, des personnes qui sont arrêtées, éventuellement expulsées pour certaines d'entre elles, mais en tout cas, c'est tout bénéfice pour celui qui les employait précédemment. Alors pourquoi ce chiffre finalement, je me suis longtemps posé la question, pourquoi 25 000, pourquoi pas 40 000, 30 000, 10 000, finalement on ne sait pas trop. Je crois que c'est peut-être pour répondre finalement à ces deux exigences. D'un côté effectivement faire un chiffre qui parle, donc 25 000 c'est assez, ça produit quand même un effet massif, donc ça rassure l'électorat le plus xénophobe ou qui a le plus peur des étrangers. Et en même temps c'est très bien que ça n'a pas d'effet global, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, même 25 000 expulsions, de toute façon il y a des personnes qui continuent à rentrer, donc ça ne tarit pas les flux d'entrants dont on a besoin, et ça ne fait pas perdre tous les effets avantageux de la présence d'une telle population et d'une telle main-d'œuvre. Donc à mon avis, il n'y a pas tellement de... Finalement, ce n'est pas tellement une contradiction, mais il y a quelque chose comme une forme de cynisme, je crois, assez exceptionnel. Voilà. Et quand même un décalage donc, entre ces moyens très importants mis en œuvre, et aussi... d'autres formes d'indulgence, mais qui sont complètement en douce. Par exemple, Sarkozy, un des ministres qui récemment a le plus, quand il était ministre intérieur, a le plus régularisé aussi. Donc ce qui explique, voilà, parce qu'il sait très bien que aussi le maintien de travailleurs étrangers avec des titres très précaires, ou santé, est globalement assez profitable. Alors comment où est-ce qu'on va en arriver? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer que les choses changent? Alors j'essaie d'en distinguer quelques-unes. D'abord le fait que le système tourne de plus en plus à vide et qui commence à susciter, enfin il y a un certain nombre de celles qui commencent à se mettre dans les rouages, par exemple du côté de la justice. Là aussi, il y avait un article dans Le Monde il y a quelques jours, qui fait que la justice commence à être complètement engorgée par les procédures liées aux expulsions. Donc par exemple, devant les juges de la liberté de la détention, donc qui statuent sur les gardes à vue, sur les mises en rétention, aujourd'hui c'est à peu près 40% des audiences qui sont sur des cas concernant des étrangers en instance d'expulsion. Devant les tribunaux administratifs aujourd'hui, alors au niveau français, c'est à peu près un tiers des requêtes qui concernent là aussi des procédures d'expulsion. Au niveau parisien, c'est 70% des audiences qui concernent des jugements sur des arrêtés de reconduite à la frontière ou des obligations à quitter le territoire français. Ce qui fait que tout le reste, en fait, passe complètement, tous les autres contentieux passent complètement à l'as. Et là aussi, on a de plus en plus de réactions de juges qui disent que tout simplement, c'est plus possible dans ces conditions. Je citais le cas de la police. Là aussi, on a de plus en plus de réactions publiques de policiers, de syndicalistes notamment, mais pas uniquement, voilà, qui expriment leur ras-le-bol, qui disent leur impression de faire un travail dégueulasse et parfaitement illégitime. Et là aussi, on a souvent, nous, l'occasion, mais ces policiers, on les voit souvent, on a parfois des discussions avec eux, il y en a une grande partie qui nous disent qu'ils n'aiment pas faire ça, que ce n'est pas leur métier. Et récemment, il y avait un policier comme ça, on lui a demandé de nous montrer sa réquisition du procureur. Et il disait, mais vous voyez, on n'est pas là pour les sans-papiers. Il y a marqué aussi délinquant, trafiquant de drogue, etc. Donc on lui dit, on sait bien que c'est pas ça. Donc il nous répond, vous savez, si je préférais largement, ce serait beaucoup plus valorisant pour moi d'arrêter des trafiquants que d'arrêter des sans-papiers. Parce que voilà. Parce qu'on sait très bien qu'ils font pas de mal. Et puis, aussi forcément, ça génère des cas de plus en plus dramatiques. On a parlé tout à l'heure des cas de défenestration. Donc il y a eu Madame Zhang à Paris qui nous avons entendu parler de l'histoire, donc elle voit des policiers entrer dans un logement où elle était, et donc elle a pris peur, elle est passée par la fenêtre, et elle est tombée, elle est décédée. Là aussi, signe de l'embarras des autorités, c'est qu'on a appris sa mort seulement deux jours plus tard, deux jours après son décès. Là aussi, ça a suscité pas mal de réactions, y compris au niveau policier. Et ce n'est pas le premier cas, puisque donc, c'est effectivement le cinquième en deux mois. Il y a aussi le cas particulièrement affreux du petit Yvan, qui là aussi, en voulant échapper à la police, est tombé du quatrième étage de son immeuble et a été grièvement blessé. Je crois qu'il y a aussi le fait que se taire devient de plus en plus difficile. Alors là, je vais vous faire une petite... Et ce qui est très intéressant, c'est le brouillage aussi des frontières politiques qui commencent à s'opérer. C'était le cas notamment à propos des tests ADN, mais il y en a d'autres. Alors, je vous donnais, donc c'était dans le Libé, je ne sais pas si vous l'avez lu, du jeudi 20 septembre, donc il y a deux tribunes, et je vais vous citer donc la première d'entre elles. Donc un homme politique qui explique « Tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants ne sont ni des quotas, ni des marchandises, ni des chiffres. Nous avons bénéficié de leur richesse quand nous étions chez eux à l'époque de la colonisation. » Nous avons été très contents de les faire venir dans notre pays pour travailler dans nos mines et dans nos usines. Nous sommes très heureux de les avoir à nos côtés dans les services à la personne pour s'occuper de nos jeunes enfants et de nos personnes âgées. Nous leur sommes très reconnaissants, même si cette gratitude ne s'est pas exprimée comme elle aurait dû l'être, quand ils nous ont aidés à nous libérer et qu'ils ont versé leur sang pour nous. Notre dette est immense à leur égard. Notre image de liberté, d'ouverture, de tolérance qui imprègne tous les peuples de la Terre ne doit pas se ternir parce que nous ne savons pas traiter avec intelligence et humanisme l'accueil de l'autre. Un homme politique, et un autre qui écrit « Comme expliquait Michel Rocard dès 1990, la France ne veut pas accueillir toute la misère du monde. L'instauration de quotas fixant le nombre annuel d'entrées par type de qualification serait un dispositif équitable et efficace. Il est d'abord indispensable de renoncer au principe de la régularisation systématique, portée par certaines associations. Ce genre de mesure crée des appels d'air qui condamnent ceux qui les prennent à vouloir vider le tonneau des Danaïdes. Il faut donc assumer une politique de reconduite aux frontières, dans le respect du droit des personnes. » Donc première citation, donc je sais pas si voilà. Donc première citation, donc celle qui dit que voilà, on était bien content de les faire venir pour travailler dans nos mines et dans nos usines, c'est un député UMP et c'est le député maire de Versailles, un certain Étienne Pinte, bon alors qui en fait est assez habitué qui a toujours des positions légèrement iconoclastes, mais quand même. Deuxième texte paru le même jour, c'était côte à côte, donc il explique qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Pardon. Donc le premier texte, donc, c'est Étienne Pinte, député UMP, ce qui est quand même intéressant, et celui qui au contraire dit qu'il faut assumer les quotas et qu'il faut bien sûr continuer à reconduire, c'est un texte de Manuel Valls, voilà, donc paru du Parti Socialiste, paru le même jour dans Libération. Donc là je crois que c'est aussi quelque chose d'important. Donc le fait que les frontières se brouillent quelque peu, et en tout cas je crois qu'il faut insister là-dessus et. Parce que c'est comme ça aussi que les problèmes, si on voit que les camps commencent à se fissurer, ça peut donner l'occasion de nouvelles mobilisations et en tout cas de formes de prise de conscience. Je montrais tout à l'heure à certains d'entre vous, donc Paris Images de cette semaine a consacré 4 pages à un portrait de famille chinoise sans papier en insistant sur la peur dans laquelle vit cette famille. Et notamment la journaliste emploie à plusieurs reprises le mot rafle sans que ça suscite de problèmes particuliers. Donc on a comme ça un certain nombre de secteurs qui s'ouvrent assez inattendus, en tout cas de personnes, de journaux, etc., qui s'ouvrent à cette question des sans-papiers et de la situation qui leur est faite. Il y a eu bien évidemment cette énorme épine dans le pied du gouvernement qui a été la mobilisation du réseau Éducation sans frontières et sa constitution, et qui, je crois, a largement relancé, de façon beaucoup plus générale, enfin au-delà des familles, la question des sans-papiers en France. Avec là aussi, je crois, quelque chose d'important, c'est pourquoi finalement est-ce que la mobilisation autour des enfants a marché ou fonctionne mieux que ce qu'il y a pu avoir auparavant. Je crois que ce n'est pas tellement pour des questions compassionnelles. Ce n'est pas uniquement parce que les enfants, ça fait pleurer dans les chaumières que c'est triste, mais c'est parce que c'est autour des enfants, il y a un milieu qui est le milieu scolaire, hein, milieu dont ne bénéficient pas les travailleurs sans papier qui travaillent dans le bâtiment ou dans la restauration, par exemple. Donc, autour des enfants, bah, c'est un lieu où là, les familles sans papier sont en contact avec des familles françaises. Et donc, c'est, je crois, ce qui a permis, avec des enseignants, avec des parents d'élèves, avec des animateurs, etc., des directeurs et des directrices d'école. Et donc, c'est aussi une des raisons, je crois, du succès de cette mobilisation. Et avec des perspectives, je crois, assez intéressantes en termes d'unité. Donc là aussi, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a expérimenté à Paris, c'est le fait que de plus en plus, il y a convergence entre RESF, les collectifs unis contre l'immigration jetable, les collectifs de sans-papiers, etc. Donc il y a bien quelque chose qui s'est... ce n'est pas des catégories qui restent séparées, mais il y a quelque chose d'unitaire qui naît. Et puis cette question du travail, elle apparaît finalement de plus en plus. Là aussi, quand on est attentif à la presse, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de cette question du rôle économique finalement déguisé de ces populations sans papier. Il apparaît de plus en plus et on ne peut pas aujourd'hui en faire l'économie, si on peut dire. Voilà. Donc moi, je propose d'arrêter là pour ma part et qu'on enchaîne sur...